Have you or someone you know left the behavioral health field? Coming back has its benefits for you and Ohioans in need. We would love to have you back working at a community behavioral health center, and you could earn up to a $3,000 bonus. That's right, a $3,000 bonus. Visit mha.ohio.gov/welcomeback and restart your journey today. That's mha.ohio.gov/welcomeback.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
31e section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie. Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Lucien, trop ivre pour s'étonner de quelque chose, remonta dans le fiacre qui l'avait amené, se fit conduire rue de la Lune et se dit à lui-même des calembours sur le nom de la rue. Pendant cette matinée, la faillite du Panorama dramatique avait éclaté. L'actrice, effrayée, s'était empressée de vendre tout son mobilier du consentement de ses créanciers au petit père Cardot qui, pour ne pas changer la destination de cet appartement, y mit Florentine. Coralie avait tout payé, tout liquidé et satisfait le propriétaire. Pendant le temps que prit cette opération, qu'elle appelait une lessive, Bérénice garnissait, des meubles indispensables achetés d'occasion, un petit appartement de 3 pièces au 4e étage d'une maison rue de la Lune, à 2 pas du gymnase. Coralie y attendait Lucien, ayant sauvé de toutes ses splendeurs son amour sans souillure et un sac de 1200 francs. Lucien, dans son ivresse, raconta ses malheurs à Coralie et à Bérénice. « Tu as bien fait, mon ange, » lui dit l'actrice en le serrant dans ses bras. « Bérénice saura bien négocier tes billets à Brolard. » Le lendemain matin, Lucien s'éveilla dans les joies enchanteresses que lui prodigua Coralie. L'actrice redoubla d'amour et de tendresse, comme pour compenser par les plus riches trésors du cœur l'indigence de son nouveau ménage. Elle était ravissante de beauté. Ses cheveux échappaient de dessous un foulard tordu, blanche et fraîche, les yeux rieurs, la parole gaie comme le rayon de soleil levant qui entra par les fenêtres pour dorer cette charmante misère. La chambre, encore décente, était tendue d'un papier vert d'eau à bordure rouge, orné de 2 glaces, l'une à la cheminée, l'autre au-dessus de la commode. Un tapis d'occasion, acheté par Bérénice de ses deniers, malgré les ordres de Coralie, déguisait le carreau nu et froid du plancher. La garde-robe des 2 amants tenait dans une armoire à glace et dans la commode. Les meubles d'acajou étaient garnis en étoffe de coton bleu. Bérénice avait sauvé du désastre une pendule et 2 vases de porcelaine, 4 couverts en argent et 6 petites cuillères. La salle à manger, qui se trouvait avant la chambre à coucher, ressemblait à celle du ménage d'un employé à 1200 francs. La cuisine faisait face au palier. Au-dessus, Bérénice couchait dans une mansarde. Le loyer ne s'élevait pas à plus de 100 écus. Cette horrible maison avait une fausse porte cochère. Le portier logeait dans un des vantaux condamnés, percé d'un croisillon par où il surveillait 17 locataires. Cette ruche s'appelle une maison de produits en style de notaire. Lucien aperçut un bureau, un fauteuil, de l'encre, des plumes et du papier. La gaieté de Bérénice qui comptait sur le début de Coralie au gymnase, celle de l'actrice qui regardait son rôle, un cahier de papier noué avec un bout de faveur bleue, chassèrent les inquiétudes et la tristesse du poète dégrisé. Pourvu que dans le monde on ne sache rien de cette dégringolade, nous nous en tirerons, dit-il. Après tout, nous avons 4500 francs devant nous. je vais exploiter ma nouvelle position dans les journaux royalistes. Demain, nous inaugurons le réveil. Je me connais maintenant en journalisme, j'en ferai. » Coralie, qui ne vit que de l'amour dans ses paroles, baisa les lèvres qui les avaient prononcées. En ce moment, Bérénice avait mis la table auprès du feu et venait de servir un modeste déjeuner composé d'œufs brouillés, de deux côtelettes et de café à la crème. On frappa. Trois amis sincères, d'Arthez, Léon Giraud et Michel Chrestien, apparurent aux yeux étonnés de Lucien, qui, vivement touché, leur offrit de partager son déjeuner. « Non, dit d'Arthez, nous venons pour des affaires plus sérieuses que de simples consolations, car nous savons tout. Nous revenons de la rue de Vendôme. Vous connaissez mes opinions, Lucien. Dans toute autre circonstance, je me réjouirais de vous voir adoptant mes convictions politiques. Mais dans la situation où vous vous êtes mis en écrivant aux journaux libéraux, vous ne sauriez passer dans les rangs des ultras sans flétrir à jamais votre caractère et souiller votre existence. Nous venons vous conjurer au nom de notre amitié, quelque affaiblie qu'elle soit, de ne pas vous entacher ainsi. Vous avez attaqué les romantiques, la droite et le gouvernement. Vous ne pouvez pas maintenant défendre le gouvernement, la droite et les romantiques. Les raisons qui me font agir sont tirées d'un ordre de pensée supérieur. La fin justifiera tout, dit Lucien. Vous ne comprenez peut-être pas la situation dans laquelle nous sommes, lui dit Léon Giraud. Le gouvernement, la cour, les Bourbons, le parti absolutiste, ou, si vous voulez tout comprendre dans une expression générale, le système opposé au système constitutionnel, et qui se divise en plusieurs fractions toutes divergentes dès qu'il s'agit des moyens à prendre pour étouffer la révolution, est au moins d'accord sur la nécessité de supprimer la presse. La fondation du réveil, de la foudre, du drapeau blanc, tous journaux destinés à répondre aux calomnies, aux injures, aux railleries de la presse libérale, que je n'approuve pas en ceci, car cette méconnaissance de la grandeur de notre sacerdoce est précisément ce qui nous a conduit à publier un journal digne et grave, dont l'influence sera dans peu de temps respectable et sentie, imposante et digne, dit-il en faisant une parenthèse. Eh bien, cette artillerie royaliste et ministérielle est un premier essai de représailles entrepris pour rendre libéraux trait pour trait, blessure pour blessure. Que croyez-vous qu'il arrivera, Lucien? Les abonnés sont en majorité du côté gauche. Dans la presse, comme à la guerre, la victoire se trouvera du côté des gros bataillons. Vous serez des infâmes, des menteurs, des ennemis du peuple. Les autres seront des défenseurs de la patrie, des gens honorables, des martyrs, quoique plus hypocrites et plus perfides que vous, peut-être. Ce moyen augmentera l'influence pernicieuse de la presse, en légitimant et consacrant ses plus odieuses entreprises. L'injure et la personnalité deviendront un de ces droits publics, adoptés pour le profit des abonnés et passés en force de choses jugées par un usage réciproque. Quand le mal se sera révélé dans toute son étendue, les lois restrictives et prohibitives, la censure, mise à propos de l'assassinat du duc de Berry et levée depuis l'ouverture des chambres, reviendra. Savez-vous ce que le peuple français conclura de ce débat? Il admettra les insinuations de la presse libérale. Il croira que les Bourbons veulent attaquer les résultats matériels et acquis de la Révolution. Il se lèvera quelque beau jour et chassera les Bourbons. Non seulement vous salissez votre vie, mais vous serez un jour dans le parti vaincu. Vous êtes trop jeune, trop nouveau venu dans la presse. Vous en connaissez trop peu les ressorts secrets, les rubriques. Vous y avez excité trop de jalousie pour résister au tollé général qui s'élèvera contre vous dans les journaux libéraux. Vous serez entraîné par la fureur des partis qui sont encore dans le paroxysme de la fièvre. Seulement leur fièvre a passé. Des actions brutales de 1815 et 1816, dans les idées, dans les luttes orales de la Chambre et dans les débats de la presse. « Mes amis, dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le poète que vous voulez voir en moi. » Quelque chose qui puisse arriver, j'aurai conquis un avantage que jamais le triomphe du parti libéral ne peut me donner. Quand vous aurez la victoire, mon affaire sera faite. Nous te couperons.
Les cheveux, dit en riant Michel Chrestien.
J'aurai des enfants alors, répondit Lucien, et me couper la tête, ce sera ne rien couper.
Les trois amis ne comprirent pas Lucien, chez qui ses relations avec le grand monde avaient développé au plus haut degré l'orgueil nobiliaire et les vanités aristocratiques. Le poète voyait, avec raison d'ailleurs, une immense fortune dans sa beauté, dans son esprit appuyé du nom et du titre de comte de Rubempré. Madame d'Espard, Madame de Bargeton et Madame de Montcornet le tenaient par ce fil comme un enfant tient à hanneton. Lucien ne volait plus que dans un cercle déterminé. Ces mots, « il est des nôtres, il pense bien », dit trois jours auparavant dans les salons de Mademoiselle des Touches, l'avaient enivré, ainsi que les félicitations qu'il avait reçues des ducs de Lenoncourt, de Navarin et de Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de la belle duchesse de Maufrigneuse, du comte d'Esgrignon, de Deslupeaux, des gens les plus influents et les mieux en cour du parti royaliste.
« Allons, tout est dit, » répliqua d'Arthez. « Il te sera plus difficile qu'à tout autre de te conserver pur et d'avoir ta propre estime. Tu souffriras beaucoup, je te connais, quand tu te verras méprisé par cela même à qui tu te seras dévoué. »
Les trois amis dirent adieu à Lucien sans lui tendre amicalement la main. Lucien resta pendant quelques instants pensif et triste.
« Et laisse donc ces niais-là, » dit Coralie en sautant sur les genoux de Lucien et lui jetant ses beaux bras frais autour du cou. « Ils prennent la vie au sérieux, et la vie est une plaisanterie. D'ailleurs, tu seras comte Lucien de Rubempré. Je ferai, s'il le faut, des agaceries à la chancellerie. Je sais par où prendre ce libertin de Deslupeaux, qui fera signer ton ordonnance. Ne t'ai-je pas dit que, quand il te faudrait une marche de plus pour saisir ta proie, tu aurais le cadavre de Coralie ?»
Le lendemain, Lucien laissa mettre son nom parmi ceux des collaborateurs du réveil. Ce nom fut annoncé comme une conquête dans le prospectus, distribué par les soins du ministère à 100 000 exemplaires. Lucien vint au repas triomphal, qui dura 9 heures, chez Robert, à 2 pas de Frascati, et auquel assistaient les coryphées de la presse royaliste, Martinville, Auger, Destin, et une foule d'auteurs encore vivants qui, dans ce temps-là, faisaient de la monarchie et de la religion, selon une expression consacrée.
« Nous allons leur en donner, aux libéraux, » dit Hector Merlin.
« Messieurs, » répondit Nathan, qui s'enrôla sous cette bannière en jugeant bien qu'il valait mieux avoir pour soi que contre soi l'autorité dans l'exploitation du théâtre à laquelle il songeait, « si nous leur faisons la guerre, faisons-la sérieusement. Ne nous tirons pas des balles de liège. Attaquons tous les écrivains classiques et libéraux sans distinction d'âge ni de sexe. Passons-les au fil de la plaisanterie et ne faisons pas de quartier.
Soyons honorables, ne nous laissons pas gagner par les exemplaires, les présents, l'argent des libraires. Faisons la restauration du journalisme. »
« Bien, » dit Martinville, « justum et tenacem propositi virum. Soyons implacables et mordants. Je ferai de Lafayette ce qu'il est. Gilles Ier. »
« Moi, » dit Lucien, « je me charge des héros du Constitutionnel, du sergent Mercier, des œuvres complètes de Monsieur Jouy, des illustres orateurs de la gauche. »
Une guerre à mort fut résolue et votée à l'unanimité, à 1 heure du matin, par les rédacteurs qui noyèrent toutes leurs nuances et toutes leurs idées dans un punch flamboyant.
« Nous nous sommes donné une fameuse culotte monarchique et religieuse, » dit sur le seuil de la porte un des écrivains les plus célèbres de la littérature romantique.
Ce mot historique, révélé par un libraire qui assistait au dîner, parut le lendemain dans le miroir, mais la révélation fut attribuée à Lucien. Cette défection fut le signal d'un effroyable tapage dans les journaux libéraux. Lucien devint leur bête noire et fut tympanisé de la plus cruelle façon. On raconta les infortunes de ses sonnets. On apprit au public que Doria aimait mieux perdre 1000 écus que de les imprimer. On l'appela le poète sans sonnet. Un matin, dans ce même journal où Lucien avait débuté si brillamment, il lut les lignes suivantes, écrites uniquement pour lui, car le public ne pouvait guère comprendre cette plaisanterie. « Si le libraire Doria persiste à ne pas publier les sonnets du futur Pétrarque français, nous agirons en ennemis généreux. Nous ouvrirons nos colonnes à ces poèmes qui doivent être piquants, à en juger par celui-ci que nous communique un ami de l'auteur. Et, sous cette terrible annonce, le poète lut ce sonnet qui le fit pleurer à chaudes larmes. Une plante chétive et de louche apparence surgit un beau matin dans un parterre en fleurs. À l'en croire, pourtant, de splendides couleurs témoigneraient un jour de sa noble semence. On la toléra donc, mais pour reconnaissance, elle insulta bientôt ses plus brillantes sœurs, qui, s'indignant enfin de ses grands airs casseurs, la mirent au défi de prouver sa naissance. Elle fleurit alors, mais un vil baladin ne fut jamais sifflé comme tout le jardin, honni, siffla, railla ce calice vulgaire. Puis le maître, en passant, la brisa sans pardon. Et le soir, sur sa tombe, un âne seul vint braire, car ce n'était vraiment qu'un ignoble chardon. Vernou parla de la passion de Lucien pour le jeu et signala d'avance l'Archer comme une œuvre antinationale où l'auteur prenait le parti des égorgeurs catholiques contre les victimes calvinistes. En 8 jours, cette querelle s'envenima. Lucien comptait sur son ami Lousteau qui lui devait 1000 francs et avec lequel il avait eu des conventions secrètes. Mais Lousteau devint l'ennemi juré de Lucien. Voici comment. Depuis 3 mois, Nathan aimait Florine et ne savait comment l'enlever à Lousteau, pour qui d'ailleurs elle était une providence. Dans la détresse et le désespoir où se trouvait cette actrice en se voyant sans engagement, Nathan, le collaborateur de Lucien, vint voir Coralie et la pria d'offrir à Florine un rôle dans une pièce de lui, se faisant fort de procurer un engagement conditionnel au gymnase à l'actrice sans théâtre. Florine, enivrée d'ambition, n'hésita pas. Elle avait eu le temps d'observer Lousteau. Nathan était un ambitieux littéraire et politique, un homme qui avait autant d'énergie que de besoin, tandis que chez Lousteau, les vices tuaient le vouloir. L'actrice, qui voulut reparaître environnée d'un nouvel éclat, livra les lettres du droguiste à Nathan, et Nathan les fit racheter par Matifat contre le 6e du journal convoité par Finot. Florine eut alors un magnifique appartement rue Hauteville et prit Nathan pour protecteur à la face de tout le journalisme et du monde théâtral. Lousteau fut si cruellement atteint par cet événement qu'il pleura vers la fin d'un dîner que ses amis lui donnèrent pour le consoler. Dans cette orgie, les convives trouvèrent que Nathan avait joué son jeu. Quelques écrivains comme Finot et Vernou savaient la passion du dramaturge pour Florine, mais au dire de tous, Lucien, en maquignonnant cette affaire, avait manqué aux plus saintes lois de l'amitié. L'esprit de parti, le désir de servir ses nouveaux amis rendaient le nouveau royaliste inexcusable. Nathan est emporté par la logique des passions, tandis que le grand homme de province, comme dit Blondet, cède à des calculs, s'écria Bixiou. Aussi, la perte de Lucien, de cet intrus, de ce petit drôle qui voulait avaler tout le monde, fut-elle unanimement résolue et profondément méditée. Vernou, qui haïssait Lucien, se chargea de ne pas le lâcher. Pour se dispenser de payer 1000 écus à Lousteau, Finot accusa Lucien de l'avoir empêché de gagner 50 000 francs en donnant à Nathan le secret de l'opération contre Matifat. Nathan, conseillé par Florine, s'était ménagé l'appui de Finot en lui vendant son petit 6e pour 15 000 francs. Lousteau, qui perdait ses 1000 écus, ne pardonna pas à Lucien cette lésion énorme de ses intérêts. Les blessures d'amour-propre deviennent incurables quand l'oxyde d'argent y pénètre. Aucune expression, aucune peinture ne peut rendre la rage qui saisit les écrivains quand leur amour-propre souffre, ni l'énergie qu'ils trouvent au moment où ils se sentent piqués par les flèches empoisonnées de la raillerie. Ceux dont l'énergie et la résistance sont stimulées par l'attaque succombent promptement. Les gens calmes, et dont le thème est fait d'après le profond oubli dans lequel tombe un article injurieux, ceux-là déploient le vrai courage littéraire. Ainsi, les faibles, au premier coup d'œil, paraissent être les forts. Mais leur résistance n'a qu'un temps. Pendant les premiers 15 jours, Lucien, enragé, fit pleuvoir une grêle d'articles dans les journaux royalistes où il partagea le poids de la critique avec Hector Merlin. Tous les jours sur la brèche du réveil, il fit feu de tout son esprit, appuyé d'ailleurs par Martinville, le seul qui le servit sans arrière-pensée, et qu'on ne mit pas dans le secret des conventions signées par des plaisanteries à préboire ou aux galeries de bois chez Doria et dans les coulisses de théâtre entre les journalistes des deux parties que la camaraderie unissait secrètement. Quand Lucien allait au foyer du vaudeville, il n'était plus traité en ami. Les gens de son parti lui donnaient seuls la main, tandis que Nathan, Hector Merlin, Théodore Gaillard fraternisaient sans honte avec Finot, Lousteau, Vernou et quelques-uns de ces journalistes décorés du surnom de « bons enfants ». À cette époque, le foyer du vaudeville était le chef-lieu des médisances littéraires, une espèce de boudoir où venaient des gens de tous les partis, des hommes politiques et des magistrats. Après une réprimande faite en certaines chambres du Conseil, le président, qui avait reproché à l'un de ses collègues de balayer les coulisses de sa simarre, se trouva simarre à simarre avec le réprimandé dans le foyer du vaudeville. Lousteau finit par y donner la main à Nathan. Finot y venait presque tous les soirs. Quand Lucien avait le temps, il y étudiait les dispositions de ses ennemis, et ce malheureux enfant voyait toujours en eux une implacable froideur. En ce temps, l'esprit de parti engendrait des haines bien plus sérieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, à la longue, tout s'est amoindri par une trop grande tension des ressorts. Aujourd'hui, la critique, après avoir immolé le livre d'un homme, lui tend la main. La victime doit embrasser le sacrificateur sous peine d'être passée par les verges de la plaisanterie. En cas de refus, un écrivain passe pour être insociable, mauvais coucheur, pétri d'amour-propre, inabordable, haineux, rancuneux. Aujourd'hui, quand un auteur a reçu dans le dos les coups de poignard de la trahison, quand il a évité les pièges tendus avec une infâme hypocrisie, essuyé les plus mauvais procédés, il entend ses assassins lui souhaitant le bonjour et manifestant des prétentions à son estime, voire même à son amitié. Tout s'excuse et se justifie à une époque où l'on a transformé la vertu en vice, comme on a érigé certains vices en vertu. La camaraderie est devenue la plus sainte des libertés. Les chefs des opinions les plus contraires se parlent à mots émoussés, à pointe courtoise. Dans ce temps, si tant est qu'on s'en souvienne, il y avait du courage pour certains écrivains royalistes et pour quelques écrivains libéraux à se trouver dans le même théâtre. On entendait les provocations les plus haineuses. Les regards étaient chargés comme des pistolets. La moindre étincelle pouvait faire partir le coup d'une querelle. Qui n'a pas surpris des imprécations chez son voisin, à l'entrée de quelques hommes plus spécialement en but aux attaques respectives des deux partis? Il n'y avait alors que deux partis, les royalistes et les libéraux, les romantiques et les classiques. La même haine sous deux formes, une haine qui faisait comprendre les échafauds de la convention. Lucien, devenu royaliste et romantique forcené, de libéral et de voltairien enragé qu'il avait été dès son début, se trouva donc sous le poids des inimitiés qui planaient sur la tête de l'homme le plus abhorré des libéraux à cette époque, de Martinville, le seul qui le défendit et l'aima. Cette solidarité nuisit à Lucien. Les partis sont ingrats envers leurs vedettes, ils abandonnent volontiers leurs enfants perdus. Surtout en politique, il est nécessaire à ceux qui veulent parvenir d'aller avec le gros de l'armée. La principale méchanceté des petits journaux fut d'accoupler Lucien et Martinville. Le libéralisme les jeta dans les bras l'un de l'autre. Cette amitié, fausse ou vraie, leur valut à tous deux des articles écrits avec du fiel par Félicien, au désespoir des succès de Lucien dans le grand monde, et qui croyait, comme tous les anciens camarades du poète, à sa prochaine élévation. La prétendue trahison du poète fut alors envenimée et embellie des circonstances les plus aggravantes. Lucien fut nommé le petit Judas et Martinville le grand Judas, car Martinville était, à tort ou à raison, accusé d'avoir livré le pont du Pec aux armées étrangères. Lucien répondit en riant à des Lupeaulx que, quant à lui, sûrement, il avait livré le pont aux ânes. Le luxe de Lucien, quoique creux et fondé sur des espérances, révoltait ses amis qui ne lui pardonnaient ni son équipage à bas, car pour eux il roulait toujours, ni ses splendeurs de la rue de Vendôme. Tous sentaient instinctivement qu'un homme jeune et beau, spirituel et corrompu par eux, allait arriver à tout. Aussi, pour le renverser, employèrent-ils tous les moyens. Quelques jours avant le début de Coralie au gymnase, Lucien vint bras dessus, bras dessous avec Hector Merlin au foyer du Vaudeville. Merlin grondait son ami d'avoir servi Nathan dans l'affaire de Florine. « Vous vous êtes fait de Lousteau et de Nathan deux ennemis mortels. Je vous avais donné de bons conseils et vous n'en avez point profité. Vous avez distribué l'éloge et répandu le bienfait. Vous serez cruellement puni de vos bonnes actions. » Florine et Coralie ne vivront jamais en bonne intelligence en se trouvant sur la même scène. L'une voudra l'emporter sur l'autre. Vous n'avez que nos journaux pour défendre Coralie. Nathan, outre l'avantage que lui donne son métier de faiseur de pièces, dispose des journaux libéraux dans la question des théâtres, et il est dans le journalisme depuis un peu plus de temps que vous. Cette phrase répondait à des craintes secrètes de Lucien, qui ne trouvait ni chez Nathan ni chez Gaillard la franchise à laquelle il avait droit. Mais il ne pouvait pas se plaindre, il était si fraîchement converti. Gaillard accablait Lucien en lui disant que les nouveaux venus devaient donner pendant longtemps des gages avant que leur parti pût se fier à eux. Le poète rencontrait dans l'intérieur des journaux royalistes et ministériels une jalousie à laquelle il n'avait pas songé. La jalousie qui se déclare entre tous les hommes en présence d'un gâteau quelconque à partager et qui les rend comparables à des chiens se disputant une proie. Ils offrent alors les mêmes grondements, les mêmes attitudes, les mêmes caractères. Ces écrivains se jouaient mille mauvais tours secrets pour se nuire les uns aux autres, auprès du pouvoir. Ils s'accusaient de tiédeur et, pour se débarrasser d'un concurrent, ils inventaient les machines les plus perfides. Les libéraux n'avaient aucun sujet de débats intestins en se trouvant loin du pouvoir et de ses grâces. En entrevoyant cet inextricable lacis d'ambition, Lucien n'eut pas assez de courage pour tirer l'épée afin d'en couper les nœuds et ne se sentit pas la patience de les démêler. Il ne pouvait être ni l'Arétin, ni le Beaumarchais, ni le Fréron de son époque. Il s'en tint à son unique désir, avoir son ordonnance en comprenant que cette restauration lui vaudrait un beau mariage. Sa fortune ne dépendrait plus alors que d'un hasard auquel aiderait sa beauté. Lousteau, qui lui avait marqué tant de confiance, avait son secret. Le journaliste savait où blesser à mort le poète d'Angoulême. Aussi, le jour où Merlin l'amenait au Vaudeville, Étienne avait-il préparé pour Lucien un piège horrible où cet enfant devait se prendre et succomber. Fin de la 31e section. Trente-deuxième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. « Voilà notre beau Lucien, » dit Finot en traînant des Lupeaulx, avec lequel il causait devant Lucien, dont il prit la main avec les décevantes chatteries de l'amitié. « Je ne connais pas d'exemple d'une fortune aussi rapide que la sienne, » dit Finot en regardant tour à tour Lucien et le maître des requêtes. « À Paris, la fortune est de deux espèces. » Il y a la fortune matérielle, l'argent que tout le monde peut ramasser, et la fortune morale, les relations, la position, l'accès dans un certain monde inabordable pour certaines personnes, quelle que soit leur fortune matérielle. Et mon ami. Notre ami, dit des Lupeaulx en jetant à Lucien un caressant regard. Notre ami, reprit Finot en tapotant la main de Lucien entre les siennes, a fait sous ce rapport une brillante fortune. À la vérité, Lucien a plus de moyens, plus de talent, plus d'esprit que tous ses envieux. Puis il est d'une beauté ravissante. Ses anciens amis ne lui pardonnent pas ses succès. Ils disent qu'il a eu du bonheur. « Ces bonheurs-là, » dit des Lupeaulx, « n'arrivent jamais aux sots ni aux incapables. Et peut-on appeler du bonheur le sort de Bonaparte ?» Il y avait eu 20 généraux en chef avant lui pour commander les armées d'Italie, comme il y a 100 jeunes gens en ce moment qui voudraient pénétrer chez Mademoiselle des Touches, que déjà dans le monde on vous donne pour femme, mon cher, dit des Lupeaulx, en frappant sur l'épaule de Lucien. Ah, vous êtes en grande faveur. Madame d'Espard, Madame de Bargeton et Madame de Montcornet sont folles de vous. N'êtes-vous pas ce soir de la soirée de Madame Firmiani? « Et demain du raout de la duchesse de Grandlieu ?»« Oui, » dit Lucien. « Permettez-moi de vous présenter un jeune banquier, Monsieur du Tillet, un homme digne de vous. Il a su faire une belle fortune, et en peu de temps. » Lucien et du Tillet se saluèrent, entrèrent en conversation, et le banquier invita Lucien à dîner. Finot et des Lupeaulx, deux hommes d'une égale profondeur et qui se connaissaient assez pour demeurer toujours amis, parurent continuer une conversation commencée. Ils laissèrent Lucien, Merlin, Du Tillet et Nathan causant ensemble et se dirigèrent vers un des divans qui meublait le foyer du vaudeville. « Ah ça, mon cher ami, » dit Finot à des Lupeaulx, « dites-moi la vérité. Lucien est-il sérieusement protégé ? Car il est devenu la bête noire de tous mes rédacteurs, et, avant de favoriser leur conspiration, j'ai voulu vous consulter pour savoir s'il ne vaut pas mieux la déjouer et le servir. » Ici, le maître des requêtes et Finot se regardèrent pendant une légère pause avec une profonde attention. « Comment, mon cher, dit des Lupeaulx, pouvez-vous imaginer que la marquise d'Espard, Châtelet et Madame de Bargeton, qui a fait nommer le baron préfet de la Charente et comte afin de rentrer triomphalement à Angoulême, pardonne à Lucien ses attaques. Elles l'ont jeté dans le parti royaliste afin de l'annuler. Aujourd'hui, tous cherchent des motifs pour refuser ce qu'on a promis à cet enfant. Trouvez-en. Vous aurez rendu le plus immense service à ces deux femmes. Un jour ou l'autre, elles s'en souviendront. J'ai le secret de ces deux dames. Elles haïssent ce petit bonhomme à un tel point qu'elles m'ont surpris. Ce Lucien pouvait se débarrasser de sa plus cruelle ennemie, Madame de Bargeton, en ne cessant ses attaques qu'à des conditions que toutes les femmes aiment à exécuter. Vous comprenez? Il est beau, il est jeune, il aurait noyé cette haine dans des torrents d'amour. Il devenait alors comte de Rubempré, la Seiche lui aurait obtenu quelques places dans la maison du roi, des sinécures. Lucien était un très joli lecteur pour Louis XVIII. Il eût été bibliothécaire, je ne sais où, maître des requêtes pour rire, directeur de quelque chose au menu plaisir. Ce petit sot a manqué son coup. Peut-être est-ce là ce qu'on ne lui a point pardonné. Au lieu d'imposer des conditions, il en a reçu. Le jour où Lucien s'est laissé prendre à la promesse de l'ordonnance, le baron Châtelet a fait un grand pas. Coralie a perdu cet enfant-là. S'il n'avait pas eu l'actrice pour maîtresse, il aurait revoulu la Seiche, et il l'aurait eue. « Ainsi nous pouvons l'abattre, » dit Finot. « Par quels moyens ?» demanda négligemment des Lupeaulx, qui voulait se prévaloir de ce service auprès de la marquise d'Espard. « Il a un marché qui l'oblige à travailler au petit journal de Lousteau. Nous lui ferons d'autant mieux faire des articles qu'il est sans le sou. » Si le garde des Sceaux se sent chatouillé par un article plaisant et qu'on lui prouve que Lucien en est l'auteur, il le regardera comme un homme indigne des bontés du roi. Pour faire perdre un peu la tête à ce grand homme de province, nous avons préparé la chute de Coralie. Il verra sa maîtresse siffler et s'enrôle. Une fois l'ordonnance indéfiniment suspendue, nous plaisanterons alors notre victime sur ses prétentions aristocratiques. Nous parlerons de sa mère accoucheuse, de son père apothicaire. Lucien n'a qu'un courage d'épiderme. Il succombera. Nous le renverrons d'où il vient. Nathan m'a fait vendre par Florine le sixième de la revue que possédait Matifa. J'ai pu acheter la part du papetier. Je suis seul avec Doria. Nous pouvons nous entendre, vous et moi, pour absorber ce journal au profit de la cour. Je n'ai protégé Florine et Nathan qu'à la condition de la restitution de mon sixième. ils me l'ont vendu, je dois les servir. Mais auparavant, je voulais connaître les chances de Lucien. »
Vous êtes digne de votre nom, dit des Lupeaulx, en riant.
Allez, j'aime les gens de votre sorte.
Eh bien, vous pouvez faire avoir à Florine un engagement définitif,
dit Finot au maître des requêtes.
Oui, mais débarrassez-nous de Lucien, car Rastignac et de Marsay ne veulent plus entendre parler de lui.
Dormez en paix, dit Finot. Nathan et Merlin auront toujours des articles que Gaillard aura promis de faire passer. Lucien ne pourra pas donner une ligne, nous lui couperons ainsi les vivres. Il n'aura que le journal de Martinville pour se défendre et défendre Coralie. Un journal contre tous, il est impossible de résister.
Je vous dirai les endroits sensibles du ministre, mais livrez-moi le manuscrit de l'article que vous aurez fait faire à Lucien, répondit des Lupeaulx, qui se garda bien de dire à Finot que l'ordonnance promise à Lucien était une plaisanterie.
Des Lupeaulx quitta le foyer. Finot vint à Lucien, et de ce ton de bonhomie auquel se sont pris tant de gens, il expliqua comment il ne pouvait renoncer à la rédaction qui lui était due.
Finot reculait à l'idée d'un procès qui ruinerait les espérances que son ami voyait dans le parti royaliste.
Finot aimait les hommes assez forts pour changer hardiment d'opinion.
Lucien et lui ne devaient-ils pas se rencontrer dans la vie? N'auraient-ils pas l'un et l'autre mille petits services à se rendre?
Lucien avait besoin d'un homme sûr dans le parti libéral pour faire attaquer les ministériels ou les ultras qui se refuseraient à le servir.
« Si l'on se joue de vous, comment ferez-vous » dit Finot en terminant.
« Si quelque ministre, croyant vous avoir attaché par le licou de votre apostasie, ne vous redoute plus et vous envoie promener, ne vous faudra-t-il pas lui lancer quelques chiens pour le mordre au mollet ?
Eh bien, vous êtes brouillé à mort avec Lousteau qui demande votre tête. »
Félicien et vous, vous ne vous parlez plus.
Moi seul, je vous reste.
Une des lois de mon métier est de vivre en bonne intelligence avec les hommes vraiment forts.
Vous pourrez me rendre, dans le monde où vous allez, l'équivalent des services que je vous rendrai dans la presse.
Mais les affaires avant tout. Envoyez-moi des articles purement littéraires. Ils ne vous compromettront pas, et vous aurez exécuté nos conventions.
Lucien ne vit que de l'amitié mêlée à de savants calculs dans les propositions de Finot, dont la flatterie et celle de des Lupeaulx l'avaient mis en belle humeur. Il remercia Finot.
Dans la vie des ambitieux et de tous ceux qui ne peuvent parvenir qu'à l'aide des hommes et des choses, par un plan de conduite plus ou moins bien combiné, suivi, maintenu, il se rencontre un cruel moment où je ne sais quelle puissance les soumet à de rudes épreuves. Tout manque à la fois. De tous côtés, les fils rompent ou s'embrouillent. Le malheur apparaît sur tous les points.
Quand un homme perd la tête au milieu de ce désordre moral, il est perdu.
Les gens qui savent résister à cette première révolte des circonstances, qui se roidissent en laissant passer la tourmente, qui se sauvent en gravissant par un épouvantable effort la sphère supérieure, sont les hommes réellement forts.
Tout homme, à moins d'être né riche, a donc ce qu'il faut appeler sa fatale semaine.
Pour Napoléon, cette semaine fut la retraite de Moscou.
Ce cruel moment était venu pour Lucien. Tout s'était trop heureusement succédé pour lui, dans le monde et dans la littérature. Il avait été trop heureux. Il devait voir les hommes et les choses se tourner contre lui.
La première douleur fut la plus vive et la plus cruelle de toutes. Elle l'atteignit là où il se croyait invulnérable, dans son cœur et dans son amour.
Coralie pouvait n'être pas spirituelle, mais douée d'une belle âme, elle avait la faculté de la mettre en dehors par ces mouvements soudains qui font les grandes actrices.
Ce phénomène étrange, tant qu'il n'est pas devenu comme une habitude par un long usage, est soumis aux caprices du caractère, et souvent à une admirable pudeur qui domine les actrices encore jeunes.
Intérieurement naïve et timide, en apparence hardie et leste comme doit être une comédienne, Coralie, encore aimante, éprouvait une réaction de son cœur de femme sur son masque de comédienne. L'art de rendre les sentiments, cette sublime fausseté, n'avait pas encore triomphé chez elle de la nature. Elle était honteuse de donner au public ce qui n'appartenait qu'à l'amour. Puis elle avait une faiblesse particulière aux femmes vraies.
Tout en se sachant appelée à régner en souveraine sur la scène, elle avait besoin du succès. Incapable d'affronter une salle avec laquelle elle ne sympathisait pas, elle tremblait toujours en arrivant en scène, et alors la froideur du public pouvait la glacer. Cette terrible émotion lui faisait trouver dans chaque nouveau rôle un nouveau début. Les applaudissements lui causaient une espèce d'ivresse, inutile à son amour-propre, mais indispensable à son courage. Un murmure de désapprobation ou le silence d'un public distrait lui ôtait ses moyens. Une salle pleine, attentive, des regards admirateurs et bienveillants, l'électrisait. Elle se mettait alors en communication avec les qualités nobles de toutes ses âmes et se sentait la puissance de les élever, de les émouvoir. Ce double effet accusait bien et la nature nerveuse et la constitution du génie, en trahissant aussi les délicatesses et la tendresse de cette pauvre enfant. Lucien avait fini par apprécier les trésors que renfermait ce cœur. Il avait reconnu combien sa maîtresse était jeune fille. Inhabile aux faussetés de l'actrice, Coralie était incapable de se défendre contre les rivalités et les manœuvres des coulisses auxquelles s'adonnait Florine, fille aussi dangereuse, aussi dépravée, déjà que son amie était simple et généreuse. Les rôles devaient venir trouver Coralie. Elle était trop fière pour implorer les auteurs et subir leurs déshonorantes conditions pour se donner au premier journaliste qui la menacerait de son amour et de sa plume. Le talent, déjà si rare dans l'art extraordinaire du comédien, n'est qu'une condition du succès. Le talent est même longtemps nuisible s'il n'est accompagné d'un certain génie d'intrigue qui manquait absolument à Coralie. Prévoyant les souffrances qui attendaient son ami à son début au gymnase, Lucien voulut à tout prix lui procurer un triomphe. L'argent qui restait sur le prix du mobilier vendu, celui que Lucien gagnait, tout avait passé au costume, à l'arrangement de la loge, à tous les frais d'un début. Quelques jours auparavant, Lucien fit une démarche humiliante à laquelle il se résolut par amour. Il prit les billets de Fendant et Cavalier, se rendit rue des Bourdonnais au Cocon d'Or pour en proposer l'escompte à Camusot. Le poète n'était pas encore tellement corrompu qu'il pût aller froidement à cet assaut. Il laissa bien des douleurs sur le chemin. Il le pava des plus terribles pensées en se disant alternativement « oui, non ». Mais il arriva néanmoins au petit cabinet froid, noir, éclairé par une cour intérieure où siégeait gravement non plus l'amoureux de Coralie, le débonnaire, le fainéant, le libertin, l'incrédule Camusot qu'il connaissait, mais le sérieux père de famille, le négociant poudré de ruses et de vertus, masqué de la pruderie judiciaire d'un magistrat du tribunal de commerce et défendu par la froideur patronale d'un chef de maison, entouré de commis, de caissiers, de cartons verts, de factures et d'échantillons, bardé de sa femme, accompagné d'une fille simplement mise. Lucien frémit de la tête aux pieds en l'abordant, car le digne négociant lui jeta le regard insolemment indifférent qu'il avait déjà vu dans les yeux des escompteurs. « Voici des valeurs, je vous aurais mis l'obligation si vous vouliez me les prendre, monsieur, » dit-il en se tenant debout auprès du négociant assis. « Vous m'avez pris quelque chose, monsieur, » dit Camusot. « Je m'en souviens. » Là, Lucien expliqua la situation de Coralie, à voix basse et en parlant à l'oreille du marchand de soieries, qui put entendre les palpitations du poète humilié. Il n'était pas dans les intentions de Camusot que Coralie éprouvât une chute. En écoutant, le négociant regardait les signatures et sourit. Il était juge au tribunal de commerce. Il connaissait la situation des libraires. Il donna 4 500 francs à Lucien, à la condition de mettre dans son endo valeur reçue en soierie. Lucien alla sur le champ voir Brolard et fit très bien les choses avec lui pour assurer à Coralie un beau succès. Brolard promit de venir et vint à la répétition générale afin de convenir des endroits où ses Romains déploieraient leur battoir de chair et enlèveraient le succès. Lucien remit le reste de son argent à Coralie, en lui cachant sa démarche auprès de Camusot. Il calma les inquiétudes de l'actrice et de Bérénice, qui déjà ne savaient comment faire aller le ménage. Martinville, un des hommes de ce temps qui connaissait le mieux le théâtre, était venu plusieurs fois faire répéter le rôle de Coralie. Lucien avait obtenu de plusieurs rédacteurs royalistes la promesse d'articles favorables. Il ne soupçonnait donc pas le malheur. La veille du début de Coralie, il arriva quelque chose de funeste à Lucien. le livre de d'Arthez avait paru. Le rédacteur en chef du journal d'Hector Merlin donna l'ouvrage à Lucien comme à l'homme le plus capable d'en rendre compte. Il devait sa fatale réputation en ce genre aux articles qu'il avait faits sur Nathan. Il y avait du monde au bureau. Tous les rédacteurs s'y trouvaient. Martinville y était venu s'entendre sur un point de la polémique générale adoptée par les journaux royalistes contre les journaux libéraux. Nathan, Merlin, tous les collaborateurs du Réveil s'y entretenaient de l'influence du journal semi-hebdomadaire de Léon Giraud, influence d'autant plus pernicieuse que le langage en était prudent, sage et modéré. On commençait à parler du Cénacle de la rue des Quatre Vents. On l'appelait une convention. Il avait été décidé que les journaux royalistes feraient une guerre à mort et systématique à ces dangereux adversaires qui devinrent en effet les metteurs en œuvre de la doctrine, cette fatale secte qui renversa les Bourbons dès le jour où la plus mesquine des vengeances amena le plus brillant écrivain royaliste à s'allier avec elle. D'Arthez, dont les opinions absolutistes étaient inconnues, enveloppé dans l'anathème prononcé sur le Cénacle, allait être la première victime. Son livre devait être échiné, selon le mot classique. Lucien refusa de faire l'article. Ce refus excita le plus violent scandale parmi les hommes considérables du parti royaliste venus à ce rendez-vous. On déclare nettement à Lucien qu'un nouveau converti n'avait pas de volonté. S'il ne lui convenait pas d'appartenir à la monarchie et à la religion, il pouvait retourner à son premier camp. Merlin et Martinville le prirent à part et lui firent amicalement observer qu'il livrait Coralie à la haine que les journaux libéraux lui avaient vouée et qu'elle n'aurait plus les journaux royalistes et ministériels pour se défendre. L'actrice allait donner lieu sans doute à une polémique ardente qui lui vaudrait cette renommée après laquelle soupirent toutes les femmes de théâtre. « Vous n'y connaissez rien, » lui dit Martinville. Elle jouera pendant 3 mois au milieu des feux croisés de nos articles et trouvera 30 000 francs en province dans ses 3 mois de congé. Pour un de ces scrupules qui vous empêcheront d'être un homme politique et qu'on doit fouler aux pieds, vous allez tuer Coralie et votre avenir. Vous jetez votre gagne-pain. » Lucien se vit forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie. Sa maîtresse était perdue s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le grand journal et dans le Réveil. Le pauvre poète revint chez lui, la mort dans l'âme. Il s'assit au coin du feu, dans sa chambre, et lut ce livre, l'un des plus beaux de la littérature moderne. Il laissa des larmes de page en page. Il hésita longtemps. Mais enfin, il écrivit un article moqueur, comme il savait si bien en faire. Il prit ce livre comme les enfants prennent un bel oiseau pour le déplumer et le martyriser. Sa terrible plaisanterie était de nature à nuire au livre. En réalisant cette belle œuvre, tous les bons sentiments de Lucien se réveillèrent. Il traversa Paris à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à travers les vitres trembler la chaste et timide lueur qu'il avait si souvent regardée avec les sentiments d'admiration que méritait la noble constance de ce vrai grand homme. Il ne se sentit pas la force de monter. Il demeura sur une borne pendant quelques instants. Enfin, poussé par son bon ange, il frappa, trouva d'Arthez lisant et sans feu. « Que vous arrive-t-il ? » dit le jeune écrivain en apercevant Lucien et devinant qu'un horrible malheur pouvait seul le lui amener. « Ton livre est sublime, » s'écria Lucien, les yeux pleins de larmes, « et ils m'ont commandé de l'attaquer. »« Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur, » dit d'Arthez. « Je ne vous demande qu'une grâce. » Gardez-moi le secret sur ma visite, et laissez-moi dans mon enfer à mes occupations de damné. Peut-être ne parvient-on à rien sans s'être fait des calus aux endroits les plus sensibles du cœur. Toujours le même, dit d'Arthez. Me croyez-vous un lâche? Non, d'Arthez, non, je suis un enfant ivre d'amour. Et il lui expliqua sa position. Voyons l'article, dit d'Arthez, ému par tout ce que Lucien venait de lui dire de Coralie. Lucien lui tendit le manuscrit. D'Arthez le lut et ne put s'empêcher de sourire. « Quel fatal emploi de l'esprit » s'écria-t-il, mais il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil, accablé d'une douleur vraie. « Voulez-vous me le laisser corriger ? Je vous le renverrai demain, » reprit-il. La plaisanterie déshonore une œuvre, une critique grave et sérieuse est parfois un éloge. Je saurai rendre votre article plus honorable, et pour vous, et pour moi. D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes fautes. » En montant une côte aride, on trouve quelquefois un fruit pour apaiser les ardeurs d'une soif horrible. « Ce fruit, le voilà, » dit Lucien qui se jeta dans les bras de d'Arthez, y pleura et lui baisa le front en disant « Il me semble que je vous confie ma conscience pour me la rendre un jour. » « Je regarde le repentir périodique comme une grande hypocrisie, » dit solennellement d'Arthez. « Le repentir est alors une prime donnée aux mauvaises actions. Le repentir est une virginité que notre âme doit à Dieu. Un homme qui se repent deux fois est donc un horrible sycophante. J'ai peur que tu ne voies que des absolutions dans tes repentirs. » Ces paroles foudroyèrent Lucien qui revint à pas lents rue de la Lune. Le lendemain, le poète porta au journal son article renvoyé et remanié par d'Arthez. Mais, depuis ce jour, il fut dévoré par une mélancolie qu'il ne sut pas toujours déguiser. Quand le soir il vit la salle du gymnase pleine, il éprouva les terribles émotions que donnent un début au théâtre, et qui s'agrandirent chez lui de toute la puissance de son amour. Toutes ses vanités étaient en jeu. Son regard embrassait toutes les physionomies, comme celui d'un accusé embrasse les figures des jurés et des juges. Un murmure allait le faire tressaillir. Un petit incident sur la scène, les entrées et les sorties de Coralie, les moindres inflexions de voix devaient l'agiter démesurément. La pièce où débutait Coralie était une de celles qui tombent mais qui rebondissent, et la pièce tomba. En entrant en scène, Coralie ne fut pas applaudie et fut frappée par la froideur du parterre. Dans les loges, elle n'eut pas d'autres applaudissements que celui de Camusot. Des personnes placées au balcon et aux galeries firent taire le négociant par des chutes répétées. Les galeries imposèrent silence aux claqueurs, quand les claqueurs se livrèrent à des salves évidemment exagérées. Martinville applaudissait courageusement, et l'hypocrite Florine, Nathan, Merlin l'imitaient. Une fois la pièce tombée, il y eut foule dans la loge de Coralie, mais cette foule aggrava le mal par les consolations qu'on lui donnait. L'actrice revint au désespoir moins pour elle que pour Lucien. « Nous avons été trahis par Braulard, » dit-il. Coralie eut une fièvre horrible, elle était atteinte au cœur. Le lendemain, il lui fut impossible de jouer, elle se vit arrêtée dans sa carrière. Lucien lui cacha les journaux, il les décacheta dans la salle à manger. Tous les feuilletons attribuaient la chute de la pièce à Coralie. Elle avait trop présumé de ses forces. Elle, qui faisait les délices des boulevards, était déplacée au gymnase. Elle avait été poussée là par une louable ambition, mais elle n'avait pas consulté ses moyens. Elle avait mal pris son rôle. Lucien lut alors sur Coralie des tartines composées dans le système hypocrite de ses articles sur Nathan. Une rage digne de Milon de Crotone, quand il se sentit les mains prises dans le chêne qu'il avait ouvert lui-même, éclata chez Lucien. Il devint blême. Ses amis donnaient à Coralie, dans une phraséologie admirable de bonté, de complaisance et d'intérêt, les conseils les plus perfides. Elle devait jouer, y disait-on, des rôles que les perfides auteurs de ces feuilletons infâmes savaient être entièrement contraires à son talent. Tels étaient les journaux royalistes serinés sans doute par Nathan. Quant aux journaux libéraux et aux petits journaux, ils déployaient les perfidies, les moqueries que Lucien avait pratiquées. Coralie entendit un ou deux sanglots. Elle sauta de son lit vers Lucien, aperçut les journaux, voulut les voir et les lut. Après cette lecture, elle alla se recoucher et garda le silence. Florine était de la conspiration, elle en avait prévu l'issue, elle savait le rôle de Coralie, elle avait eu Nathan pour répétiteur. L'administration, qui tenait à la pièce, voulut donner le rôle de Coralie à Florine. Le directeur vint trouver la pauvre actrice, elle était en larmes et abattue. Mais quand il lui dit devant Lucien que Florine savait le rôle et qu'il était impossible de ne pas donner la pièce le soir, elle se dressa, sauta hors du lit. « Je jouerai, » cria-t-elle. Elle tomba évanouie. Florine eut donc le rôle et s'y fit une réputation, car elle releva la pièce. Elle eut dans tous les journaux une ovation à partir de laquelle elle fut cette grande actrice que vous savez. Le triomphe de Florine exaspéra Lucien au plus haut degré. une misérable à laquelle tu as mis le pain à la main. Si le gymnase le veut, il peut racheter ton engagement. Je serai comte de Rubempré, je ferai fortune et t'épouserai. »
Quelle sottise ! Dit Coralie en lui jetant un regard pâle.
Une sottise ! Cria Lucien. Eh bien, dans quelques jours, tu habiteras une belle maison, tu auras un équipage et je te ferai un rôle. Il prit 2000 francs et courut à Frascati. Le malheureux y resta 7 heures, dévoré par des furies, le visage calme et froid en apparence. Pendant cette journée et une partie de la nuit, il eut les chances les plus diverses. Il posséda jusqu'à 30 000 francs et sortit sans un sou. Quand il revint, il trouva Finot qui l'attendait pour avoir ses petits articles. Lucien commit la faute de se plaindre.
« Ah, tout n'est pas rose !» répondit Finot. « Vous avez fait si brutalement votre demi-tour à gauche que vous deviez perdre l'appui de la presse libérale, bien plus forte que la presse ministérielle et royaliste. Il ne faut jamais passer d'un camp dans un autre sans s'être fait un bon lit où l'on se console des pertes auxquelles on doit s'attendre. Mais, dans tous les cas, un homme sage va voir ses amis, leur expose ses raisons et se fait conseiller par eux son abjuration. Ils en deviennent les complices, ils vous plaignent, et l'on convient alors, comme Nathan et Merlin, leurs camarades, de se rendre des services mutuels. Les loups ne se mangent point. Vous avez eu, vous, en cette affaire, l'innocence d'un agneau. Vous serez forcé de montrer les dents à votre nouveau parti pour en tirer cuisse ou aile. Ainsi, l'on vous a sacrifié nécessairement à Nathan. Je ne vous cacherai pas le bruit, le scandale et les criailleries que soulève votre article contre d'Arthez. Marat est un saint comparé à vous. Il se prépare des attaques contre vous, votre livre y succombera. Où en est-il, votre roman ?
Voici les dernières feuilles, dit Lucien en montrant un paquet d'épreuves. On vous attribue les articles non signés des journaux ministériels et ultra contre ce petit d'Arthez. Maintenant, tous les jours, les coups d'épingle du réveil sont dirigés contre les gens de la rue des Quatre Vents, et les plaisanteries sont d'autant plus sanglantes qu'elles sont drôles. Il y a toute une coterie politique grave et sérieuse derrière le journal de Léon Giraud, une coterie à qui le pouvoir appartiendra tôt ou tard. Je n'ai pas mis le pied au réveil depuis 8 jours. Eh bien, pensez à mes petits articles, faites-en 50, sur le champ. Je vous les paierai en masse, mais faites-les dans la couleur du journal. » Et Finot donna négligemment à Lucien le sujet d'un article plaisant contre le garde des Sceaux, en lui racontant une prétendue anecdote qui, lui dit-il, courait les salons. Fin de la 32e section.
Trente-troisième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Pour réparer sa perte au jeu, Lucien retrouva, malgré son affaissement, de la verve, de la jeunesse d'esprit, et composa 30 articles de chacun 2 colonnes. Les articles finis, Lucien alla chez Doria, sûr d'y rencontrer Finot, auquel il voulait les remettre secrètement. Il avait d'ailleurs besoin de faire expliquer le libraire sur la non-publication des Marguerites. Il trouva la boutique pleine de ses ennemis. À son entrée, il y eut un silence complet. Les conversations cessèrent. En se voyant mis au banc du journalisme, Lucien se sentit un redoublement de courage et se dit à lui-même, comme dans l'allée du Luxembourg, « Je triompherai ». Doria ne fut ni protecteur ni doux. Il se montra goguenard, retranché dans son droit. Il ferait paraître les Marguerites à sa guise. Il attendrait que la position de Lucien en assurât le succès. Il avait acheté l'entière propriété. Quand Lucien objecta que Doria était tenu de publier ses Marguerites par la nature même du contrat et de la qualité des contractants, le libraire soutint le contraire et dit que, judiciairement, il ne pourrait être contraint à une opération qu'il jugea mauvaise. Il était seul juge de l'opportunité. Il y avait d'ailleurs une solution que tous les tribunaux admettraient. Lucien était maître de rendre les 1000 écus, de reprendre son œuvre et de la faire publier par un libraire royaliste.
Lucien se retira plus piqué du ton modéré que Dauriat avait pris qu'il ne l'avait été de sa pompe autocratique à leur première entrevue. Ainsi, les Marguerites ne seraient sans doute publiées qu'au moment où Lucien aurait pour lui les forces auxiliaires d'une camaraderie puissante ou deviendrait formidable par lui-même. Le poète revint chez lui lentement, en proie à un découragement qui le menait au suicide, si l'action eût suivi la pensée. Il vit Coralie au lit, pâle et souffrante. « Un rôle où elle meurt », lui dit Bérénice pendant que Lucien s'habillait pour aller rue du Mont-Blanc chez Mademoiselle des Touches, qui donnait une grande soirée où il devait trouver des Lupeaux, Vignon, Blondet, Madame d'Espard et Madame de Bargeton. La soirée était donnée pour Conti, le grand compositeur qui possédait l'une des voix les plus célèbres en dehors de la scène pour la Cinti, la Pasta Garcia, Levasseur et deux ou trois voix illustres du beau monde. Lucien se glissa jusqu'à l'endroit où la marquise, sa cousine et Madame de Montcornet étaient assises. Le malheureux jeune homme prit un air léger, content, heureux. Il plaisanta, se montra comme il était dans ses jours de splendeur. Il ne voulait point paraître avoir besoin du monde. Il s'étendit sur les services qu'il rendait au parti royaliste. Il en donna pour preuve les cris de haine que poussaient les libéraux. « Vous en serez bien largement récompensé, mon ami, » lui dit Madame de Bargeton en lui adressant un gracieux sourire. « Allez après-demain à la chancellerie avec le Héron et des Lupeaux, et vous y trouverez votre ordonnance signée par le roi. » Le garde des Sceaux l'apporte demain au château, mais il y a conseil, il reviendra tard. Néanmoins, si je savais le résultat, dans la soirée, j'enverrai chez vous. Où demeurez-vous ? Je viendrai, répondit Lucien, honteux d'avoir à dire qu'il demeurait rue de la Lune. Les ducs de Lenoncourt et de Navarreins ont parlé de vous, roi, reprit la marquise. Ils ont vanté en vous un de ces dévouements absolus et entiers qui voulaient une récompense éclatante afin de vous venger des persécutions de parti libéral. D'ailleurs, le nom et le titre des Rubempré, auxquels vous avez droit par votre mère, vont devenir illustres en vous. Le roi a dit à sa grandeur, le soir, de lui apporter une ordonnance pour autoriser le sieur Lucien Chardon à porter le nom et les titres des comtes de Rubempré, en sa qualité de petit-fils du dernier comte par sa mère. « Favorisons les Chardonneray du Pinde, a-t-il dit après avoir lu votre sonnet sur le lys, dont s'est heureusement souvenue ma cousine et qu'elle avait donné au duc. Surtout quand le roi peut faire le miracle de les changer en aigle, a répondu monsieur de Navarreins. Lucien eut une effusion de cœur qui aurait pu attendrir une femme moins profondément blessée que l'était Louise d'Espard de Nègrepelisse. Plus Lucien était beau, plus elle avait soif de vengeance. Des Lupeaux avaient raison. Lucien manquait de tact. Il ne sut pas deviner que l'ordonnance dont on lui parlait n'était qu'une plaisanterie, comme savait en faire Madame d'Espard. Enhardi par ce succès et par la distinction flatteuse que lui témoignait Mademoiselle des Touches, il resta chez elle jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir lui parler en particulier. Lucien avait appris dans les bureaux des journaux royalistes que Mademoiselle des Touches était la collaboratrice secrète d'une pièce où devait jouer la grande merveille du moment, la petite fée. Quand les salons furent déserts, il emmena Mademoiselle des Touches sur un sofa dans le boudoir et lui raconta d'une façon si touchante le malheur de Coralie et le sien que cette illustre hermaphrodite lui promit de faire donner le rôle principal à Coralie. Le lendemain de cette soirée, au moment où Coralie, heureuse de la promesse de Mademoiselle des Touches à Lucien, revenait à la vie et déjeunait avec son poète, Lucien lisait le journal de Lousteau, où se trouvait le récit épigrammatique de l'anecdote inventée sur le garde des Sceaux et sur sa femme. La méchanceté la plus noire s'y cachait sous l'esprit le plus incisif. Le roi Louis XVIII était admirablement mis en scène et ridiculisé sans que le parquet pût intervenir. Voici le fait auquel le parti libéral essayait de donner l'apparence de la vérité, mais qui n'a fait que grossir le nombre de ses spirituelles calomnies. La passion de Louis XVIII pour une correspondance galante et musquée, pleine de madrigaux et d'étincelles, y était interprétée comme la dernière expression de son amour qui devenait doctrinaire. Il passait, y disait-on, du fait à l'idée. l'illustre maîtresse, si cruellement attaquée par Béranger sous le nom d'Octavie, avait conçu les craintes les plus sérieuses. La correspondance languissait. Plus Octavie déployait d'esprit, plus son amant se montrait froid et terne. Octavie avait fini par découvrir la cause de sa défaveur. Son pouvoir était menacé par les prémices et les épices d'une nouvelle correspondance du royal écrivain avec la femme du garde des Sceaux. Cette excellente femme était supposée incapable d'écrire un billet. Elle devait être purement et simplement l'éditeur responsable d'une audacieuse ambition. Qui pouvait être caché sous cette jupe? Après quelques observations, Octavie découvrit que le roi correspondait avec son ministre. Son plan est fait. Aidée par un ami fidèle, elle retient un jour le ministre à la chambre par une discussion orageuse et se ménage un tête-à-tête où elle révolte l'amour-propre du roi par la révélation de cette tromperie. Louis XVIII entre dans un accès de colère bourbonienne et royale. Il éclate contre Octavie. Il doute. Octavie offre une preuve immédiate en le priant d'écrire un mot qui voulut absolument une réponse. La malheureuse femme, surprise, envoie requérir son mari à la chambre. Mais tout était prévu. Dans ce moment, il occupait la tribune. La femme sue, sang et eau, cherche tout son esprit et répond avec l'esprit qu'elle trouve. « Votre chancelier vous dira le reste, » s'écria Octavie en riant du désappointement du roi. Quoique mensonger, l'article piquait au vif le garde des Sceaux, sa femme et le roi. Des Lupeaux, à qui Finot a toujours gardé le secret, avait, dit-on, inventé l'anecdote. Ce spirituel et mordant article fit la joie des libéraux et celle du parti de monsieur. Lucien s'en amusa sans y voir autre chose qu'un très agréable canard. Il alla le lendemain prendre des Lupeaux et le baron du Châtelet. Le baron venait remercier sa grandeur. Le sieur Châtelet, nommé conseiller d'État en service extraordinaire, était fait compte avec la promesse de la préfecture de la Charente dès que le préfet actuel aurait fini les quelques mois nécessaires pour compléter le temps voulu pour lui faire obtenir le maximum de la retraite. Le comte du Châtelet, car le « du » fut inséré dans l'ordonnance, prit Lucien dans sa voiture et le traita sur un pied d'égalité. Sans les articles de Lucien, il ne serait peut-être pas parvenu si promptement. La persécution des libéraux avait été comme un piédestal pour lui. Des Lupeaux était au ministère, dans le cabinet du secrétaire général. À l'aspect de Lucien, ce fonctionnaire fit un bond d'étonnement et regarda Des Lupeaux. « Comment ? Vous osez venir ici, monsieur ?» dit le secrétaire général à Lucien, stupéfait. « Sa grandeur a déchiré votre ordonnance préparée. La voici. » Il montra le premier papier venu déchiré en quatre. Le ministre a voulu connaître l'auteur de l'épouvantable article d'hier. « Et voici la copie du numéro, » dit le secrétaire général en tendant à Lucien les feuillets de son article. « Vous vous dites royaliste, monsieur, et vous êtes collaborateur de cet infâme journal qui fait blanchir les cheveux au ministre, qui chagrine les centres et nous entraîne dans un abîme. Vous déjeunez du corsaire, du miroir, du constitutionnel, du courrier. Vous dînez de la quotidienne, du réveil, et vous soupez avec Martinville, le plus terrible antagoniste du ministre, et qui pousse le roi vers l'absolutisme, ce qui l'amènerait à une révolution tout aussi promptement que s'il se livrait à l'extrême-gauche. Vous êtes un très spirituel journaliste, mais vous ne serez jamais un homme politique. Le ministre vous a dénoncé comme l'auteur de l'article au roi, qui, dans sa colère, a grondé monsieur le duc de Navarreins, son premier gentilhomme de service. Vous vous êtes fait des ennemis d'autant plus puissants qu'il vous était plus favorable. » Ce qui, chez un ennemi, semble naturel, est épouvantable chez un ami. « Mais vous êtes donc un enfant, mon cher, » dit Des Lupeaux. « Vous m'avez compromis. Mesdames d'Espard et de Bargeton, Madame de Montcornet, qui avait répondu de vous, doivent être furieuses. » Le duc a dû faire retomber sa colère sur la marquise, et la marquise a dû gronder sa cousine. « N'y allez pas. Attendez. Voici sa grandeur. Sortez, » dit le secrétaire général. Lucien se trouva sur la place Vendôme, hébété, comme un homme à qui l'on vient de donner sur la tête un coup d'assommoir. Il revint à pied par les boulevards en essayant de se juger. Il se vit le jouet d'hommes envieux, avides et perfides. Qu'était-il dans ce monde d'ambition? un enfant qui courait après les plaisirs et les jouissances de vanité, leur sacrifiant tout. Un poète, sans réflexion profonde, allant de lumière en lumière comme un papillon, sans plan fixe, l'esclave des circonstances, pensant bien et agissant mal. Sa conscience fut un impitoyable bourreau. Enfin, il n'avait plus d'argent et se sentait épuisé de travail et de douleur. Ses articles ne passaient qu'après ceux de Merlin et de Nathan. Il allait à l'aventure, perdu dans ses réflexions. Il vit en marchant chez quelques cabinets littéraires qui commençaient à donner des livres en lecture avec les journaux, une affiche où, sous un titre bizarre, à lui tout à fait inconnu, brillait son nom. Par Monsieur Lucien Chardon de Rubempré. Son ouvrage paraissait. Il n'en avait rien su. Les journaux se taisaient. Il demeura les bras pendants, immobile, sans apercevoir un groupe de jeunes gens les plus élégants parmi lesquels étaient Rastignac, de Marsay et quelques autres de sa connaissance. Il ne fit pas attention à Michel Chrestien et à Léon Giraud qui venaient à lui. « Vous êtes Monsieur Chardon ?» lui dit Michel d'un ton qui fit résonner les entrailles de Lucien comme des cordes. « Ne me connaissez-vous pas ?» répondit-il en pâlissant. Michel lui cracha au visage. « Voilà les honoraires de vos articles contre d'Arthez. Si chacun dans sa cause ou dans celle de ses amis imitait ma conduite, la presse resterait ce qu'elle doit être, un sacerdoce respectable et respecté. » Lucien avait chancelé. Il s'appuya sur Rastignac en lui disant, ainsi qu'à de Marsay, « Messieurs, vous ne sauriez refuser d'être mes témoins, mais je veux d'abord rendre la partie égale et la faire sans remède. » Lucien donna vivement un soufflet à Michel, qui ne s'y attendait pas. Les dandys et les amis de Michel se jetèrent entre le républicain et le royaliste, afin que cette lutte ne prît pas un caractère populacier. Rastignac saisit Lucien et l'emmena chez lui, rue Tête-Boue, à deux pas de cette scène, qui avait lieu sur le boulevard de Gand, à l'heure du dîner. Cette circonstance évita les rassemblements d'usage en pareil cas. De Marsay vint chercher Lucien, que les deux dandys forcèrent à dîner joyeusement avec eux au café anglais, où ils se grisèrent. « Êtes-vous fort à l'épée ?» lui dit De Marsay. « Je n'en ai jamais manié. »« Au pistolet ?» dit Rastignac. « Je n'ai pas dans ma vie tiré un seul coup de pistolet. »« Vous avez pour vous le hasard. Vous êtes un terrible adversaire. Vous pouvez tuer votre homme, » dit De Marsay. Lucien trouva fort heureusement Coralie au lit et endormie. L'actrice avait joué dans une petite pièce et à l'improviste. Elle avait repris sa revanche en obtenant des applaudissements légitimes et non stipendiés. Cette soirée, à laquelle ne s'attendaient pas ses ennemis, détermina le directeur à lui donner le principal rôle dans la pièce de Camille Maupin, car il avait fini par découvrir la cause de l'insuccès de Coralie à son début. Courroucé par les intrigues de Florine et de Nathan, pour faire tomber une actrice à laquelle il tenait, le directeur avait promis à Coralie la protection de l'administration. À 5 heures du matin, Rastignac vint chercher Lucien. « Mon cher, vous êtes logé dans le système de votre rue, » lui dit-il pour tout compliment. « Soyons les premiers au rendez-vous, sur le chemin de Clignancourt, c'est de bon goût, et nous devons de bons exemples. » « Voici le programme, » lui dit de Marsay dès que le fiacre roula dans le faubourg Saint-Denis. « Vous vous battez au pistolet, à 25 pas, marchant à volonté l'un sur l'autre, jusqu'à une distance de 15 pas. Vous avez chacun 5 pas à faire et 3 coups à tirer, pas davantage. Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à en rester là l'un et l'autre. Nous chargeons les pistolets de votre adversaire, et ses témoins chargent les vôtres. Les armes ont été choisies par les 4 témoins réunis chez un armurier. Je vous promets que nous avons aidé le hasard. Vous avez des pistolets de cavalerie. » Pour Lucien, la vie était devenue un mauvais rêve. Il lui était indifférent de vivre ou de mourir. Le courage particulier au suicide lui servit donc à paraître en grand costume de bravoure aux yeux des spectateurs de son duel. Il resta, sans marcher, à sa place. Cette insouciance passa pour un froid calcul. On trouva ce poète très fort. Michel Chrestien vint jusqu'à sa limite. Les deux adversaires firent feu en même temps, car les insultes avaient été regardées comme égales. Au premier coup, La balle de Chrestien effleura le menton de Lucien, dont la balle passa à 10 pieds au-dessus de la tête de son adversaire. Au second coup, la balle de Michel se logea dans le col de la redingote du poète, lequel était heureusement piqué et garni de bougrons. Au troisième coup, Lucien reçut la balle dans le sein et tomba. « Est-il mort ?» demanda Michel. « Non, » dit le chirurgien, « il s'en tirera. »« Tant pis, » répondit Michel. « Oh oui, tant pis, » répéta Lucien en versant des larmes. À midi, ce malheureux enfant se trouva dans sa chambre et sur son lit. Il avait fallu 5 heures et de grands ménagements pour l'y transporter. Quoique son état fût sans danger, il exigeait des précautions. La fièvre pouvait amener de fâcheuses complications. Coralie étouffa son désespoir et ses chagrins. Pendant tout le temps que son ami fut en danger, elle passa les nuits avec Bérénice en apprenant ses rôles. Le danger de Lucien dura 2 mois. Cette pauvre créature jouait quelquefois un rôle qui voulait de la gaieté, tandis qu'intérieurement elle se disait « Mon cher Lucien meurt peut-être en ce moment ». Pendant ce temps, Lucien fut soigné par Bianchon. Il dut la vie au dévouement de cet ami si vivement blessé, mais à qui d'Arthez avait confié le secret de la démarche de Lucien en justifiant le malheureux poète. Dans un moment lucide, car Lucien eut une fièvre nerveuse d'une haute gravité, Bianchon, qui soupçonnait d'Arthez de quelque générosité, questionna son malade. Lucien lui dit n'avoir pas fait d'autre article sur le livre de d'Arthez que l'article sérieux et grave inséré dans le journal d'Hector Merlin. À la fin du premier mois, la maison Fendant et Cavalier déposa son bilan. Bianchon dit à l'actrice de cacher ce coup affreux à Lucien. Le fameux roman de L'Archer, de Charles IX, publié sous un titre bizarre, n'avait pas eu le moindre succès. Pour se faire de l'argent, avant de déposer le bilan, Fendant, à l'insu de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en bloc à des épiciers, qui le revendaient à bas prix, au moyen du colportage. En ce moment, le livre de Lucien garnissait les parapets des ponts et les quais de Paris. La librairie du quai des Augustins, qui avait pris une certaine quantité d'exemplaires de ce roman, se trouvait donc perdre une somme considérable par suite de l'avilissement subi du prix. Les 4 volumes in 12 qu'elle avait achetés 4 francs 50 centimes étaient donnés pour 50 sous. Le commerce jetait les hauts cris, et les journaux continuaient à garder le plus profond silence. Barbet n'avait pas prévu ce lavage. Il croyait au talent de Lucien. Contrairement à ses habitudes, il s'était jeté sur 200 exemplaires, et la perspective d'une perte le rendait fou. Il disait des horreurs de Lucien. Barbet prit un parti héroïque. Il mit ses exemplaires dans un coin de son magasin par un entêtement particulier aux avares et laissa ses confrères se débarrasser des leurs à vil prix. Plus tard, en 1824, quand la belle préface de d'Arthez, le mérite du livre et 2 articles faits par Léon Giraud eurent rendu à cette œuvre sa valeur, Barbet vendit ses exemplaires, un par un, au prix de 10 francs. Malgré les précautions de Bérénice et de Coralie, il fut impossible d'empêcher Hector Merlin de venir voir son ami mourant. Et il lui fit boire, goutte à goutte, le calice amer de ce bouillon, mot en usage dans la librairie, pour peindre l'opération funeste à laquelle s'étaient livrés Fendant et Cavalier en publiant le livre d'un débutant. Martinville, seul fidèle à Lucien, fit un magnifique article en faveur de l'œuvre. Mais l'exaspération était telle, et chez les libéraux et chez les ministériels, contre le rédacteur en chef de l'Aristarque, de l'Oriflamme et du Drapeau blanc, que les efforts de ce courageux athlète qui rendit toujours 10 insultes pour une au libéralisme nuisirent à Lucien. Aucun journal ne releva le gant de la polémique, quelque vives que fussent les attaques du bravo royaliste. Coralie, Bérénice et Bianchon fermèrent la porte à tous les soi-disant amis de Lucien qui jetèrent les hauts cris. Mais il fut impossible de la fermer aux huissiers. La faillite de Fendant et de Cavalier rendait leurs billets exigibles en vertu d'une des dispositions du Code de commerce la plus attentatoire aux droits des tiers qui se voient ainsi privés des bénéfices du terme. Lucien se trouva vigoureusement poursuivi par Camusot. En voyant ce nom, l'actrice comprit la terrible et humiliante démarche qu'avait dû faire son poète, pour elle si angélique. Elle l'en aima 10 fois plus et ne voulut pas implorer Camusot. En venant chercher leur prisonnier, les gardes du commerce le trouvèrent au lit et reculèrent à l'idée de l'emmener. Ils allèrent chez Camusot avant de prier le président du tribunal d'indiquer la maison de santé dans laquelle il déposerait le débiteur. Camusot accourut aussitôt rue de la Lune. Coralie descendit et remonta, tenant les pièces de la procédure qui, d'après Landau, avait déclaré Lucien commerçant. Comment avait-elle obtenu ces papiers de Camusot? Quelle promesse avait-elle faite? Elle garda le plus morne silence, mais elle était remontée quasi morte. Coralie joua dans la pièce de Camille Maupin et contribua beaucoup à ce succès de l'illustre hermaphrodite littéraire. La création de ce rôle fut la dernière étincelle de cette belle lampe. À la 20e représentation, au moment où Lucien rétabli commençait à se promener, à manger et parlait de reprendre ses travaux, Coralie tomba malade. Un chagrin secret la dévorait. Bérénice a toujours cru que pour sauver Lucien, elle avait promis de revenir à Camusot. L'actrice eut la mortification de voir donner son rôle à Florine. Nathan déclarait la guerre au gymnase, dans le cas où Florine ne succéderait pas à Coralie. En jouant le rôle jusqu'au dernier moment pour ne pas le laisser prendre par sa rivale, Coralie outrepassa ses forces. Le gymnase lui avait fait quelques avances pendant la maladie de Lucien. Elle ne pouvait plus rien demander à la caisse du théâtre. Malgré son bon vouloir, Lucien était encore incapable de travailler. Il soignait d'ailleurs Coralie afin de soulager Bérénice. Ce pauvre ménage arriva donc à une détresse absolue. Il eut cependant le bonheur de trouver dans Bianchon un médecin habile et dévoué qui lui donna crédit chez un pharmacien. La situation de Coralie et de Lucien fut bientôt connue des fournisseurs et du propriétaire. Les meubles furent saisis. La couturière et le tailleur, ne craignant plus le journaliste, poursuivirent ces deux bohémiens à outrance. Enfin, il n'y eut plus que le pharmacien et le charcutier qui fissent crédit à ces malheureux enfants. Lucien, Bérénice et la malade furent obligés pendant une semaine environ de ne manger que du porc sous toutes les formes ingénieuses et variées que lui donnent les charcutiers. La charcuterie, assez inflammatoire de sa nature, aggrava la maladie de l'actrice. Lucien fut contraint par la misère d'aller chez Lousteau réclamer les 1000 francs que cet ancien ami, ce traître, lui devait. Ce fut au milieu de ses malheurs la démarche qui lui coûta le plus. Lousteau ne pouvait plus rentrer chez lui rue de la Harpe. Il couchait chez ses amis. Il était poursuivi, traqué comme un lièvre. Lucien ne put trouver son fatal introducteur dans le monde littéraire que chez Flicoteaux. Lousteau dînait à la même table où Lucien l'avait rencontré, pour son malheur, le jour où il s'était éloigné de d'Arthez. Lousteau lui offrit à dîner et Lucien accepta. Quand, en sortant de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qui y mangeait ce jour-là, Lousteau, Lucien et le grand inconnu, qui remisait sa garde-robe chez Samanon, voulurent aller au café Voltaire prendre du café, jamais ils ne purent faire 30 sous en réunissant le billon qui retentissait dans leurs poches. Ils flânèrent au Luxembourg, espérant y rencontrer un libraire, et ils virent en effet un des plus fameux imprimeurs de ce temps, auquel Lousteau demanda 40 francs et qui les donna. Lousteau partagea la somme en 4 portions égales, et chacun des écrivains en prit une. La misère avait éteint toute fierté, tout sentiment chez Lucien. Il pleura devant ses 3 artistes en leur racontant sa situation. Mais chacun de ses camarades avait un drame tout aussi cruellement horrible à lui dire. Quand chacun eut paraphrasé le sien, le poète se trouva le moins malheureux des 4. Aussi tous avaient-ils besoin d'oublier et leur malheur, et leur pensée qui doublait le malheur. Lousteau courut au Palais-Royal, y jouait les 9 francs qui lui restèrent sur ses 10 francs. Le grand inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtresse, alla dans une vile maison suspecte se plonger dans le bourbier des voluptés dangereuses. Vignon se rendit au petit rocher de Cancale, dans l'intention d'y boire 2 bouteilles de vin de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa mémoire. Lucien quitta Claude Vignon sur le seuil du restaurant, en refusant sa part de ce souper. La poignée de main que le grand homme de province donna au seul journaliste qui ne lui avait pas été hostile fut accompagnée d'un horrible serrement de cœur. « Que faire ? » lui demanda-t-il. « À la guerre comme à la guerre, » lui dit le grand critique. « Votre livre est beau, mais il vous a fait des envieux. Votre lutte sera longue et difficile. Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au ténia dans l'estomac, y dévore les sentiments à mesure qu'ils y éclosent. Qui triomphera ? La maladie de l'homme ou l'homme de la maladie ? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. À moins d'être un colosse, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes mince et fluet, vous succomberez, ajouta-t-il en entrant chez le restaurateur. Lucien revint chez lui en méditant sur cet horrible arrêt dont la profonde vérité lui éclairait la vie littéraire. « De l'argent !» lui criait une voix. Il fit lui-même, à son ordre, 3 billets de 1 000 francs chacun à 1, 2 et 3 mois d'échéance, en y imitant avec une admirable perfection la signature de David Séchard, et il les endossa. Puis, le lendemain, il les porta chez Métivier, le marchand de papier de la rue Serpente, qui les lui escompta sans aucune difficulté. Lucien écrivit aussitôt à son beau-frère en le prévenant de la nécessité où il avait été de commettre ce faux, en se trouvant dans l'impossibilité de subir les délais de la poste. Mais il lui promettait de faire les fonds à l'échéance. Les dettes de Coralie et celles de Lucien payées, il resta 300 francs que le poète remit entre les mains de Bérénice, en lui disant de ne lui rien donner s'il demandait de l'argent. Il craignait d'être saisi par l'envie d'aller au jeu. Lucien, animé d'une rage sombre, froide et taciturne, se mit à écrire ses plus spirituels articles à la lueur d'une lampe en veillant Coralie. Quand il cherchait ses idées, il voyait cette créature adorée, blanche comme une porcelaine, belle de la beauté des mourantes, lui souriant de deux lèvres pâles, lui montrant des yeux brillants comme le sont ceux de toutes les femmes qui succombent autant à la maladie qu'au chagrin. Lucien envoyait ses articles aux journaux, mais comme il ne pouvait pas aller dans les bureaux pour tourmenter les rédacteurs en chef, les articles ne paraissaient pas. Quand il se décidait à venir au journal, Théodore Gaillard, qui lui avait fait des avances et qui, plus tard, profita de ses diamants littéraires, le recevait froidement. « Prenez garde à vous, mon cher, vous n'avez plus d'esprit, ne vous laissez pas abattre, ayez de la verve, lui disait-il. » Ce petit Lucien n'avait que son roman et ses premiers articles dans le ventre, s'écriait Félicien Vernou, Merlin et tous ceux qui le haïssaient quand il était question de lui chez Dauriat ou au Vaudeville. Il nous envoie des choses pitoyables. Ne rien avoir dans le ventre, mot consacré dans l'argot du journalisme, constitue un arrêt souverain dont il est difficile d'appeler une fois qu'il a été prononcé. Ce mot colporté partout tuait Lucien, à l'insu de Lucien. Au commencement du mois de juin, Bianchon dit au poète que Coralie était perdue. Elle n'avait pas plus de 3 ou 4 jours à vivre. Bérénice et Lucien passèrent ces fatales journées à pleurer sans pouvoir cacher leurs larmes à cette pauvre fille au désespoir de mourir à cause de Lucien. Par un retour étrange, Coralie exigea que Lucien lui amenât un prêtre. L'actrice voulut se réconcilier avec l'Église et mourir en paix. Elle fit une fin chrétienne. Son repentir fut sincère. Cette agonie et cette mort achevèrent d'ôter à Lucien sa force et son courage. Le poète demeura dans un complet abattement, assis dans un fauteuil, au pied du lit de Coralie, en ne cessant de la regarder jusqu'au moment où il vit les yeux de l'actrice tournés par la main de la mort. Il était alors 5 heures du matin. Un oiseau vint s'abattre sur les pots de fleurs qui se trouvaient en dehors de la croisée et gazouilla quelques chants. Bérénice, agenouillée, baisait la main de Coralie qui se refroidissait sous ses larmes. Il y avait alors 11 sous sur la cheminée. Lucien sortit, poussé par un désespoir qui lui conseillait de demander l'aumône pour enterrer sa maîtresse ou d'aller se jeter aux pieds de la marquise d'Espard, du comte du Châtelet, de madame de Bargeton, de mademoiselle des Touches ou du terrible dandy de Marsay. Il ne se sentait plus alors ni fierté, ni force. pour avoir quelque argent, il se serait engagé soldat. Il marcha de cette allure affaissée et décomposée que connaissent les malheureux jusqu'à l'hôtel de Camille Maupin. Il y entra sans faire attention au désordre de ses vêtements et la fit prier de le recevoir. Mademoiselle s'est couchée à 3 heures du matin et personne n'oserait entrer chez elle avant qu'elle n'ait sonné, répondit le valet de chambre. Quand vous sonne-t-elle ? Jamais avant 10 heures. Lucien écrivit alors une de ces lettres épouvantables où les malheureux ne ménagent plus rien. Un soir, il avait mis en doute la possibilité de ses abaissements, quand Lousteau lui parlait des demandes faites par de jeunes talents à Finot, et sa plume l'emportait peut-être alors au-delà des limites où l'infortune avait jeté ses prédécesseurs. Il revint las, imbécile et fiévreux, par les boulevards, sans se douter de l'horrible chef-d'œuvre que venait de lui dicter le désespoir. Il rencontra Barbet. « Barbet, 500 francs ?» lui dit-il en lui tendant la main. « Non, 200, » répondit le libraire. « Ah, vous avez donc un cœur ?»« Oui, mais j'ai aussi des affaires. Vous me faites perdre bien de l'argent, » ajouta-t-il après lui avoir raconté la faillite de Fendant et de Cavalier. « Faites-moi donc gagner. » Lucien frissonna. « Vous êtes poète, vous devez savoir faire toutes sortes de vers, » dit le libraire en continuant. « En ce moment, j'ai besoin de chansons grivoises pour les mêler à quelques chansons prises à différents auteurs, afin de ne pas être poursuivi comme contrefacteur, et pouvoir vendre dans les rues un joli recueil de chansons à 10 sous. Si vous voulez m'envoyer demain 10 bonnes chansons à boire ou croustilleuses, là, vous savez, je vous donnerai 200 francs. » Lucien revint chez lui. Il y trouva Coralie, étendue, droit et roide sur un lit de sangle, enveloppée dans un méchant drap de lit que cousait Bérénice en pleurant. La grosse Normande avait allumé 4 chandelles aux 4 coins de ce lit. Sur le visage de Coralie étincelait cette fleur de beauté qui parle si haut aux vivants, en leur exprimant un calme absolu. Elle ressemblait à ces jeunes filles qui ont la maladie des pâles couleurs. Il semblait par moments que ses 2 lèvres violettes allaient s'ouvrir et murmurer le nom de Lucien. Ce mot qui, mêlé à celui de Dieu, avait précédé son dernier soupir. Lucien dit à Bérénice d'aller commander aux pompes funèbres un convoi qui ne coûtait pas plus de 200 francs, en y comprenant le service à la chétive église de Bonne Nouvelle. Dès que Bérénice fut sortie, le poète se mit à sa table auprès du corps de sa pauvre amie et y composa les 10 chansons qui voulaient des idées gaies et des airs populaires. Il éprouva des peines inouïes avant de pouvoir travailler, mais il finit par trouver son intelligence au service de la nécessité, comme s'il n'eût pas souffert. Il exécutait déjà le terrible arrêt de Claude Vignon sur la séparation qui s'accomplit entre le cœur et le cerveau. Quelle nuit que celle où ce pauvre enfant se livrait à la recherche de poésie à offrir aux goguettes en écrivant à la lueur des cierges, à côté du prêtre qui priait pour Coralie. Le lendemain matin, Lucien, qui avait achevé sa dernière chanson, essayait de la mettre sur un air alors à la mode. Bérénice et le prêtre eurent alors peur que ce pauvre garçon ne fût devenu fou en lui entendant chanter les couplets suivants. « Ami, la morale en chanson me fatigue et m'ennuie. Doit-on invoquer la raison quand on sert la folie? D'ailleurs, tous les refrains sont bons lorsqu'on trinque avec des lurons. Épicure l'atteste. N'allons pas chercher Apollon quand Bacchus est notre échanson. Rions, buvons, et moquons-nous du reste. Hippocrate à tout bon buveur promettait la centaine. Qu'importe, après tout, par malheur, si la jambe incertaine ne peut plus poursuivre un tendron. Pourvu qu'à vider un flacon, la main soit toujours leste. Si toujours, en vrai biberon, jusqu'à 60 ans nous trinquons, rions, buvons, et moquons-nous du reste. Veut-on savoir d'où nous venons? La chose est très facile. Mais, pour savoir où nous irons, il faudrait être habile. Sans nous inquiéter, enfin, usons, ma foi, jusqu'à la fin de la bonté céleste. Il est certain que nous mourrons, mais il est sûr que nous vivons. Rions, buvons, et moquons-nous du reste. » Au moment où le poète chantait cet épouvantable dernier couplet, Bianchon et d'Arthez entrèrent et le trouvèrent dans le paroxysme de l'abattement. Il versait un torrent de larmes et n'avait plus la force de remettre ses chansons honnêtes. Quand à travers ses sanglots il eut expliqué sa situation, il vit des larmes dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. « Ceci, dit d'Arthez, efface bien des fautes. Heureux ceux qui trouvent l'enfer ici-bas. » dit gravement le prêtre. Le spectacle de cette belle morte souriant à l'éternité, la vue de son amant lui achetant une tombe avec des gravelures, Barbet payant un cercueil, ces quatre chandelles autour de cette actrice dont la basquine et les bas rouges à coins verts faisaient naguère palpiter toute une salle, puis sur la porte le prêtre qui l'avait réconciliée avec Dieu, retournant à l'église pour y dire une messe en faveur de celle qui avait tant aimé, ses grandeurs et ses infamies, ses douleurs écrasées sous la nécessité glacèrent le grand écrivain et le grand médecin qui s'assirent sans pouvoir proférer une parole. Un valet apparut et annonça mademoiselle des Touches. Cette belle et sublime fille comprit tout. Elle alla vivement à Lucien, lui serra la main et y glissa 2 billets de 1 000 francs. « Il n'est plus temps, » dit-il en lui jetant un regard de mourant. D'Arthez, Bianchon et mademoiselle des Touches ne quittèrent Lucien qu'après avoir bercé son désespoir des plus douces paroles, mais tous les ressorts étaient brisés chez lui. À midi, le cénacle, moins Michel Chrestien, qui cependant avait été détrompé sur la culpabilité de Lucien, se trouva dans la petite église de Bonne Nouvelle, ainsi que Bérénice et mademoiselle des Touches, deux comparses du gymnase, l'habilleuse de Coralie et Camusot. Tous les hommes accompagnèrent l'actrice au cimetière du Père-Lachaise. Camusot, qui pleurait à chaudes larmes, jura solennellement à Lucien d'acheter un terrain à perpétuité et d'y faire construire une colonnette sur laquelle on graverait « Coralie » et dessous « Morte à 19 ans ». Lucien demeura seul jusqu'au coucher du soleil, sur cette colline d'où ses yeux embrassaient Paris. « Par qui serais-je aimé ?» se demanda-t-il. « Mes vrais amis me méprisent. Quoi que j'eusse fait, tout de moi semblait noble et bien à celle qui est là. Je n'ai plus que ma sœur, David, et ma mère. Que pense-t-il de moi, là-bas ?» Le pauvre grand homme de province revint rue de la Lune, et ses impressions furent si vives en revoyant l'appartement vide qu'il alla se loger dans un méchant hôtel de la même rue. Les 2 000 francs de mademoiselle des Touches payèrent toutes les dettes, mais en y ajoutant le produit du mobilier. Bérénice et Lucien eurent 10 francs à eux, qui les firent vivre pendant 10 jours que Lucien passa dans un accablement maladif. Il ne pouvait ni écrire, ni penser. Il se laissait aller à la douleur, et Bérénice eut pitié de lui. « Si vous retournez dans votre pays, comment irez-vous » répondit-elle un soir à une exclamation de Lucien qui pensait à sa sœur, à sa mère et à David Séchard. « À pied, » dit-il. « Encore faut-il pouvoir vivre et se coucher en route. Si vous faites 12 lieues par jour, vous avez besoin d'au moins 20 francs. »« Je les aurai, » dit-il. Il prit ses habits et son beau linge, ne garda sur lui que le strict nécessaire, et alla chez Samanon qui lui offrit 50 francs de toute sa défroque. Il supplia l'usurier de lui donner assez pour prendre la diligence. Il ne put le fléchir. Dans sa rage, Lucien monta d'un pied chaud à Frascati, tenta la fortune et revint sans un liard. Quand il se trouva dans sa misérable chambre, rue de la Lune, il demanda le châle de Coralie à Bérénice. À quelques regards, la bonne fille comprit, d'après l'aveu que Lucien lui fit de la perte au jeu, quel était le dessein de ce pauvre poète au désespoir. Il voulait se pendre. « Êtes-vous fou, monsieur ? » dit-elle. « Allez vous promener et revenez à minuit. J'aurai gagné votre argent. Mais restez sur les boulevards. N'allez pas vers les quais. » Lucien se promena sur les boulevards, hébété de douleur, regardant les équipages, les passants, se trouvant diminué, seul, dans cette foule qui tourbillonnait, fouettée par les 1000 intérêts parisiens. En revoyant par la pensée les bords de sa Charente, il eut soif des joies de la famille. Il eut alors un de ces éclairs de force qui trompent toutes ses natures à demi-féminines. Il ne voulut pas abandonner la partie avant d'avoir déchargé son cœur dans le cœur de David Séchard et prit conseil des 3 anges qui lui restaient. En flânant, il vit Bérénice endimanchée causant avec un homme sur le boueux boulevard Bonne Nouvelle où elle stationnait au coin de la rue de la Lune. « Que fais-tu ? » dit Lucien épouvanté par les soupçons qu'il conçut à l'aspect de la Normande. « Voilà 20 francs qui peuvent coûter cher, mais vous partirez. » répondit-elle en coulant 4 pièces de 100 sous dans la main du poète. Bérénice se sauva sans que Lucien pût savoir par où elle avait passé, car, il faut le dire à sa louange, cet argent lui brûlait la main et il voulait le rendre, mais il fut forcé de le garder,
comme un dernier stigmate de la vie parisienne. Fin de la 33e section. Fin de la seconde partie des Illusions perdues. Un grand homme de province à Paris.
Have you or someone you know left the behavioral health field? Coming back has its benefits for you and Ohioans in need. We would love to have you back working at a community behavioral health center, and you could earn up to a $3,000 bonus. That's right, a $3,000 bonus. Visit mha.ohio.gov/welcomeback and restart your journey today. That's mha.ohio.gov/welcomeback.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.